Et patrimoine culturel, l'appréciation des transformations du secteur bancaire va être complètement différente. Alors, on retrouve l'un des de très vieux débats, hein, derrière c'est une transformation des conditions structurelles des économies et la capacité à lutter contre les inégalités qu'elles engendrent naturellement parce que tous les individus ont la capacité à y accéder. Donc, un des grands transformations dans nos sociétés en cours, c'est cette capacité à prendre en compte non seulement les différences dans l'accès à un certain nombre de services ou de nouveaux biens, mais aussi la capacité à prendre en compte les apprentissages auxquels ces biens doivent donner lieu. Et cette notion de prendre en compte les apprentissages est, à mon sens, importante quand on compare la situation des chemins de fer ou des cités à la bonne période, hein, début du XXe, avec ce qui se passe maintenant. Mais ce transparent revient à quelque chose pleinement, ce que je viens de dire dans le paragraphe 1, qui rappelait micro-macro, que soulignait Dominique, et que je trouve tout à fait fondamental dans la dynamique. Alors le plus simple, c'est celui qu'on a identifié le mieux, c'est celui qu'on trouve au cœur du régime fordiste, où il y a, au niveau microéconomique de la notion de productivité, et de l'autre, une certaine dynamique de formation des salaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ceci n'appartient qu'à un secteur particulier. C'est-à-dire que le fordisme n'est pas la transformation d'une économie en une grande entreprise organisée selon les principes de l'OST et de salaire en fonction des gains de productivité. L'industrie a toujours été, pas minoritaire, mais elle a occupé une part, etc. Simplement, elle jouait une espèce d'effet de dynamique clair. Que connaissent nos études sectorielles, où ce qui se passe, et cette pertinence au niveau microéconomique, conditionne les conventions qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Alors vous voyez tout de suite pourquoi j'insiste. Quand on va passer à la phase dite post-fordiste, c'est en repérant quels vont être les secteurs producteurs de ces normes que l'on va avoir peut-être une des clés ou une des ouvertures sur le type de compromis qui, au niveau macroéconomique, va assurer un développement d'ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir cette articulation, de bien préciser que les économies sont de ce point de vue à deux secteurs, et de les penser à deux secteurs, avec au niveau macroéconomique, l'extension de ces salaires, mais aussi la légitime développement de tout un rapport salarial qui dépasse la forme salaire direct, comme vous le... Alors, je continue, je vais passer. Alors, la notion de productivité, alors, la comptabilité keynésienne, effectivement, c'est ce que tu rappelais, se traduit par une bonne corrélation entre la croissance du PIB et la croissance du bien-être. Bien que tous les écrits, et en particulier les travaux qui, dans les années 45, établissent ça, il y a tout un tas de discussions, c'est-à-dire qu'on ne découvre rien. Ils savent, comme tu l'avais dit, de Malthus, où ils sont très conscients aussi de cette différence. Simplement, effet de dynamique. Il y a un facteur de... Il y a l'effet rattrapage, hein. Il y a l'effet phase de reconstruction. Cette, je dirais, utilisation de la contanate, on va trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question des services non marchands qui va occuper centralement l'édiction des normes, les comparaisons internationales. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect frontière. La contanate est parachutée en 1945. Dans sa logique, elle est ses tableaux, la stone, la logique. Mais après, c'est bien autour des frontières, comme la prise en charge de l'État, qu'on trouve des choses, je crois, intéressantes. Aussi, dans cette régulation fordiste, une norme de consommation qui est assez à centralité des productions de masse, ça c'est la vulgate classique de la présentation du fordisme. Ce que je voulais simplement la rappeler, c'est le caractère, que vous connaissez, anticipé de la diffusion. Et je pense que là, il y a un facteur de cohérence sociale que l'on ne retrouve pas dans la période contemporaine. Il n'y a pas une espèce de norme de consommation dans lesquelles les différentes couches sociales accéderaient les unes après les autres. Cet ordre-là, cet ordre tout à fait important pour ce sentiment d'égalité, ou juste, enfin, au cœur du contrat social passé, dans la phase contemporaine. Alors, là aussi, il est important de voir, quand on se fait référer à la période fordiste, et ça mettra tout à fait en lumière ce que disait Dominique Bédard, c'est que c'est une période effrayante. C'est une période effrayante. C'est une période effrayante au sens quoi ? Au sens où on a négligé les dégâts sur la santé, l'environnement, les ratages de la diffusion de l'American Law of Life. Cette diffusion n'a pas du tout accédé à tous les milieux. Et elle a construit des univers urbains plus ou moins bien structuré, plus ou moins que plus. Donc le bilan, on ne doit pas idéaliser, je fais attention, la période. Et c'est pour ça que moi je tiens à la nomination de post-fordiste, parce que ce que je crois qui est net dans les évaluations de la période contemporaine, au terme réaliste du terme, c'est de prendre en compte les dégâts, voir l'amiante, voir tout ceci. Mmh. Là, oui, on est voir la pollution. Il y a moins de pollution maintenant, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup plus dans les villes, dans les centres-villes, apparemment. Donc, et y compris dans une perspective presque hygiéniste que l'hygiéniste. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a bien cette espèce d'effet de prise de conscience qu'on va dans le mur. Donc la période post-fordiste, c'est aussi une période où, au centre du politique, on doit retrouver une... bonne compréhension, parce qu'il y aura toujours des intérêts contradictoires et des relations conflictuelles, mais une prise en charge des limites de la croissance antérieure. Et ça, c'est très net dans les années 70. On voit bien ces limites. Alors, pertinence en déclin, je dirais... on pourrait l'illustrer de mille et une façons. C'est-à-dire, du point de vue même des comptables, il y a une dérive au cours du temps, et une dérive sur des espaces où, dans les voitures, les fameuses voitures, toujours l'automobile, il y a là aussi une dérive dans l'appréciation de la qualité et qui va être au cœur des travaux des années 90. Je vais vite, je ne sais plus où j'en suis, mais son temps, Carlo.
Encore
5
minutes.
5 minutes, ouais, très bien. Donc, j'ai commencé par ma conclusion. Voilà. Donc là, je rappelle la contradiction centrale entre le court terme et la recherche de qualité. Et la différenciation croissante entre ce qui est de l'ordre de l'output et de qualité de l'output, ça, typique, c'est santé et éducation. Là encore, perspective réaliste, mais qui n'est plus nationale. C'est à chaque fois ce que je voudrais souligner, c'est et les enjeux aussi sur la santé. Si le rapport Boskin parle de la santé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Américains aussi, en même période, Boskin c'est le milieu des années 90, qui travaillent sur cette question. Où effectivement, le paradoxe est énorme. C'est encore plus beau que celui de la productivité aux États-Unis. Hein. C'est le pays qui dépense le plus en termes de PIB, et c'est celui qui a l'indicateur de bien-être, de bien-être au sens physique du terme, hein, de capacité des individus, qui voisine les taux de pays bien. C'est le plus gros paradoxe qui soit, donc ils y sont très sensibles, mais ils en ont vu plein d'autres. Ah, c'est la Fontanate avec un débat. Mais pourquoi ce débat vient aux États-Unis à l'époque? Bon, ça, je reviendrai. Voilà. Pourquoi ce débat autour de l'invention? C'est une question fixe, c'est-à-dire c'est l'utilisation carrément des indicateurs. Si on sous-estime la qualité des biens, alors on surestime la hausse des prix, et comme ce sont encore des économies largement excès, en particulier du point de vue des transferts, ben, on donne trop d'argent aux pauvres. C'est ça qui motive le rapport Boskin. C'est pas complètement de nous refaire cette comptabilité. Mais néanmoins, ça rentre directement sur ce plan politique éminent qui est une rediscussion autour du bien-être et des enjeux. Alors, moi, je me suis intéressé dans le rapport Boskin beaucoup aux inégalités. C'est-à-dire dans quelle mesure il prenait à bord le fait que les modifications soient du secteur bancaire ou autre. Etc. Il y a un refus total de prendre en compte ça. Et ils sont restés sur les erreurs des comptables, ce qui n'est pas très gentil, mais enfin, il est vrai que les comptables pesaient à l'époque quand on pouvait se moquer d'eux de ce côté-là. Mais il y a donc des petits trucs assez techniques sur les indices. Et puis, il y a la grande question de la prise en compte de certaines qualités, mais aux marges un peu de l'existence. C'est-à-dire, je parlais des voitures, c'est une perspective hédonique. C'est-à-dire, on regarde un peu la capacité des individus à recalculer comme ça les volumes. Hein, on tient un peu compte. C'est le vieux problème du frigidaire avec le réfrigérateur, le congélateur intégré. Simplement, on ne l'applique pas à tous les biens et ça laisse d'énormes zones d'ombre. Et sans ce débat, ce n'est pas pour rien que c'est au milieu des années 90 qu'un certain nombre d'économètres disent ben non, il y a tout un tas ou tout un paquet de biens sur lesquels on peut. Alors. Bon, je crois que je vais conclure rapidement. Vous voyez, la perspective que je prends dans cette histoire, c'est de vivre dans cette logique, donc d'intégration d'un certain, de reconnaissance plutôt des parties prenantes, hein, comme le disent les anglo-saxons, je pense que le terme est juste, dans un certain nombre d'activités. Hein, dans les activités productives, il y a aussi à la fois le voisinage, il y a la qualité des biens. Et dans certains domaines, on va assez loin là-dedans. Hein, toute une bagarre très contemporaine sur l'éthique de production vont tout à fait dans ce sens-là. Alors, il est difficile de totaliser un petit peu les choses, mais d'abord, on a quand même des horizons temporels qui sont assez longs, et je crois qu'il est important de voir que le débat politique, beaucoup plus qu'il le fait, là où il est réaliste de faire certaines transformations. C'est ce qu'il fait un peu sur les nouvelles, enfin il le fait beaucoup sur les nouvelles technologies, et la fracture numérique est devenue, on en dit plus que ce que on fait réellement quant aux utilisations, mais c'est quand même tout à fait intéressant, parce que c'est vraiment prendre en charge cette notion d'apprentissage par rapport à des technologies nouvelles. Les grands domaines, effectivement, dans lesquels toutes ces conventions, cette dynamique peut transformer la santé, où vous passez d'une logique d'input à une logique, effectivement, de résultat, et où vous pouvez tenir compte aussi des effets que peut avoir sur la le fait que vous avez un grand nombre de personnes concernées qui ont pratique de prévention, etc. Donc, c'est vraiment au cœur de tous ces débats. Ces débats sur la santé. Ça pourrait être la même chose. L'étude PISA est très intéressante, comme il est intéressant de voir que la France a beaucoup résisté au départ. Elle n'a pas voulu participer à ce jeu-là. Elle n'aimait pas ce jeu d'indicateurs. Curieusement, ce qui se passe au niveau de... C'est aussi des discussions sur indicateurs où on peut pousser la barre. C'est dans la thèse de Raveau, on voit assez bien, on voit la bagarre autour des indicateurs. Entre autres, c'est ce que tu... Hein? En France, on considère que c'est plutôt valorisant. On valorise différemment les taux d'emploi, et là, on se heurte à nos amis. Donc là, on a vraiment des frontières dont je souligne à chaque fois qu'elles sont déjà, les questions sont déjà largement internationales. Dans exactement cette redéfinition-là, vous avez aussi tout ce qui touche cette affaire, et qui là aussi est une question nationale. J'arrête, hein? J'arrête ou presque. La nécessité, c'est de revenir à cette échelle de l'échelle microéconomique. C'est retrouver au niveau micro quelles sont les nouvelles normes de production qui vont nous permettre de redéfinir productivité et leur partage. Hein. Et là, on voit que le débat est déjà assez centré là-dessus. Alors, je ne veux pas prendre parti, je sais que c'est souvent critiqué à juste titre, et qu'il faut resituer un peu l'ensemble, mais entre l'entreprise citoyenne où on demande à l'invention, et puis, le salarié local, je vais vous parler à la suppure, c'est-à-dire où aussi on essaye d'échapper à certaines de ces contradictions en essayant de créer un statut de salarié qui déborde du cadre de l'entreprise. Bien évidemment, nos sociétés sont à la recherche d'autres formules qui est à la fois des dynamiques moins... Ma conclusion, j'ai donné, c'est-à-dire si on se réfère purement aux pratiques de comptabilité nationale, je crois que c'est effectivement un champ où soit on se heurte aux vieilles rationalités, soit on les resitue dans leur champ politique. Là, on voit pas, ce qu'on ne voit pas très bien, c'est si les anciens systèmes de comptabilité nationale sont à même de porter ces nouvelles revendications, ou si on assiste à quelque chose où les acteurs sociaux, différentes instances de certification, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon de revivre la comptanate. Hein. Il faut voir que dans tout ce que je racontais là, toutes ces instances qui se développent de certification sont des éléments d'arbitrage et de développement des mêmes frontières. Bon, j'arrête.